Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Academy. Enseigner, c'est espérer. Tel est le titre du livre que publie Pierre Léna de l'Académie des sciences en cette rentrée scolaire 2012 aux éditions Le Pommier. Et ce titre est assorti d'un sous-titre plaidoyer pour l'école de demain et même, pour bien résumer le constat qui sous-tend sa réflexion, d'une courte explication qui figure sur la couverture. Notre monde change vite, la jeunesse souple et prompte à respirer l'air du temps change aussi, très vite, mais l'école qu'elle fréquente par obligation, elle, ne change pas ou si peu. Bonjour Monsieur Léna.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes astrophysicien, membre de l'Académie des sciences depuis 1991 dans la section sciences de l'univers, professeur émérite à l'Université Paris Diderot, mais surtout, vous êtes cofondateur avec vos confrères, le regretté prix Nobel Georges Charpak et l'ami de toujours Yves Quéré, de la main à la pâte, une initiative pour transformer l'enseignement scientifique, en commençant par les classes maternelles. Vous allez nous en reparler. J'ajoute que vous êtes depuis longtemps impliqué dans la réflexion sur l'enseignement et l'éducation. Vous avez été délégué à l'éducation et à la formation au sein de l'Académie des sciences. Et d'ailleurs, vous vous présentez, c'est dans la page 10 de votre livre, comme un scientifique qui a passionné la pédagogie. Vous vous reconnaissez dans cette définition.
Oui, merci.
Vous l'avez écrite. Alors, on va peut-être penser encore un livre sur l'école. On va peut-être se demander comment faire entendre une voix nouvelle dans la cacophonie des opinions, lesquelles portent souvent un masque idéologique. Et là, je vous cite. Alors, qu'avez-vous voulu faire partager avec ce livre ?
J'ai voulu saisir une occasion et répondre à une profonde demande. Saisir une occasion parce que notre pays est engagé avec le changement politique et toutes les analyses qui ont précédé, notamment sur la formation des professeurs, dans une occasion exceptionnelle de changement sur l'école, entendons l'école primaire, le collège, le lycée, plus que l'université dont on a déjà beaucoup parlé ces dernières années, et que je crois cette occasion est à saisir, mais si elle n'est pas bien saisie, elle ne se représentera pas sans doute dans les années à venir de manière aussi favorable.
Donc c'est une année charnière, l'année 2012-2013.
C'est une année charnière que va illustrer la décision du gouvernement actuel de faire voter une nouvelle loi sur l'école, prolongeant, je pense, la loi de 2005 sur l'avenir justement de l'école. Deuxième raison, les Français, des sondages le montrent, considèrent à une très large majorité, plus de 80% d'entre eux, que l'école doit changer en profondeur. Pas seulement des réformes de programme, pas seulement des adaptations d'horaires, mais un changement profond. Et donc c'est autour de ces deux idées, l'urgence de délivrer un modeste message, mais qui repose sur l'expérience que vous avez citée, de 15 ans de travail autour des sciences, et puis le désir de peut-être contribuer à cet espoir de changement. Le titre du livre, « Enseigner, c'est espérer », vient d'un poème de Louis Aragon écrit à la Libération, chanson de l'Université de Strasbourg, ce qui est au fond déjà tout un programme. Et je l'ai choisi parce qu'il me semble que ce dont les professeurs, les actuels, mais aussi les futurs, et plus encore ceux qui décident de ne pas devenir professeurs aujourd'hui, ce qui est un immense problème de notre pays, ont avant tout besoin d'espérance.
Oui, vous insistez beaucoup, en effet, sur ce mot. Est-ce que je peux, si vous le permettez, présenter votre plan de ce livre ? Parce que ça donne un peu le contenu, 4 parties dans le vôtre. D'abord, un bref résumé de l'aventure de la main à la pâte. 16 ans, vous l'avez dit, de succès, au fond, cette initiation des jeunes, très jeunes enfants à la science. Vous allez nous en parler, mais dans Canal Academy, nous avons aussi beaucoup d'autres émissions sur la main à la pâte avec vous. une réflexion sur le collège, car le collège, c'est le lieu de toutes les difficultés, des succès parfois des élèves, Dieu merci, mais aussi des échecs. Ce collège qui, je le dis pour nos auditeurs étrangers, couvre une tranche d'âge de 11 à 16 ans à peu près. Un regard sur la science, la culture et la manière de transmettre la science et la culture, ça c'est votre compétence. Et enfin, une réflexion et des propositions sur l'école de demain. Tout ça fait un livre facile d'accès. Ça n'est pas un jargon de spécialiste, bien que vous ayez fait vraiment une réflexion en profondeur sur ces sujets d'éducation. Vous avez volontairement voulu un livre simple et accessible.
C'est exact, parce que vous avez utilisé le mot « idéologie ». L'école est un lieu d'abord sur lequel chacun a une opinion. Il y a autant d'opinions sur l'école que de parents d'élèves, et parfois même un peu plus, ce qui rend toute réflexion compliquée. Et puis ensuite, elle est, dans notre tradition française en tout cas, et depuis bien longtemps, un lieu d'affrontement idéologique, de vision du monde, ce qui d'une certaine manière est normal, mais qui peut aussi cacher la réalité quotidienne et au fond ce que nous voulons transmettre à la génération qui vient. Donc j'ai essayé de prendre un tout petit peu de distance par rapport à cela en m'appuyant sur le fait que nous autres scientifiques peut-être avons moins tendance à l'idéologie que
d'autres. Parce que le réel vous rappelle à l'ordre.
Le réel nous rappelle à l'ordre, oui.
Ce qui est aussi une des grandes qualités de votre ouvrage, outre son accessibilité, son langage clair, c'est deux autres qualités à mon avis. D'abord, vous partez d'une expérience, vous faites partager votre expérience à partir de la main à la pâte et vous donnez même des témoignages, pas seulement des témoignages de professeurs, mais aussi des témoignages d'élèves, lesquels n'ont pas souvent droit à la parole, comme vous le dites, des petits-enfants même parfois, qui disent des choses fort pertinentes. Et puis, je trouve que ce livre nous permet d'avoir une vision très positive parce que vous êtes sensible finalement à l'humain.
Comment ne le serait-on pas quand il s'agit de l'enfance, de l'adolescence, c'est-à-dire de la génération qui monte et dont nous devons, c'est notre devoir le plus impératif je crois, faire des hommes et des femmes pour vivre l'avenir. Donc j'ai cherché, il y a beaucoup de choses dans ce livre, on n'aura pas le temps de toutes les évoquer bien sûr, mais comme vous le dites, l'expérience est centrale, c'est-à-dire que souvent les réformes de l'éducation partent avec les meilleures intentions du monde d'une vision idéologique. On faisait cela jusqu'à aujourd'hui, mais demain nous devons faire ceci parce que ce sera meilleur au nom d'eux. Et là se déroulent beaucoup de drapeaux, de la rentabilité, de la laïcité, etc. Le parti qui a pris la main à la pâte depuis le début était au fond un parti de scientifique, c'est-à-dire... On a un certain nombre d'idées, justes ou fausses, nous verrons bien. Nous ne prétendons pas à la vérité, encore moins à établir un dogme sur l'éducation. Essayons, le temps qu'il faudra, avec des moyens modestes, mais en essayant que moyens, et de ce point de vue-là, le ministère de l'Éducation nationale, celui de l'enseignement supérieur, celui des affaires étrangères et européennes, et l'Académie des sciences, bien sûr, nous ont beaucoup aidés. Essayons de mettre les moyens en cohésion avec les objectifs de l'expérience. Souvent, ce n'est pas le cas. On lance des réformes, mais il n'y a pas les moyens. Et on ne sait plus si la réforme est mauvaise parce qu'elle était mal pensée ou simplement parce que les moyens de la mettre en œuvre n'ont pas été suffisants. Donc, essayons d'équilibrer cela. Passons-y le temps nécessaire, 5 ans. Pour le primaire, ça a plutôt été près d'une décennie. Pour le collège, nous en sommes à 6 ans. Et puis ajustons le tir. C'est le travail que nous faisons dans nos laboratoires. Et ici, évidemment, le matériau, si j'ose dire, enfant, professeur, est plus compliqué que celui avec lequel nous travaillons. Et puis tirons-en des conclusions et voyons si nous pouvons faire des propositions à l'État, utilisant au fond l'indépendance de l'Académie des sciences et la liberté de parole qui est la nôtre, pour que ces propositions soient pertinentes. Donc ça a été cette démarche qui nous a guidés. Alors peut-être nous avons eu 3 points forts parmi les leçons tirées de cette expérience. Et il y en a plus sans doute, mais les 3 peut-être que je retiens compte tenu de tous les débats sur l'école aujourd'hui sont les suivants. Le premier, c'est que nous avons fait travailler les professeurs ensemble. Nous avons rompu cette solitude de l'enseignant qui, une fois la porte de sa classe fermée, est le seul maître à bord. C'est merveilleux, mais en même temps, c'est terriblement angoissant pour certains d'entre eux. Hein. Et quand il s'agit des sciences, souvent source de peur. Donc nous avons constamment mis en avant le travail en équipe, entre enseignants, d'une même école, d'un même collège, entre collèges, entre écoles, avec l'Académie des sciences, avec des membres de l'Académie se déplaçant dans les écoles, dans la production de ressources, de documents, dans l'analyse, dans l'évaluation, dans le suivi des élèves, dans les missions faites à l'étranger, je pourrais en citer beaucoup.
Décloisonner.
Ce travail collectif, ensemble.
Ensemble, oui.
Agir ensemble. Seconde idée, les sciences ne sont pas toutes seules parce que finalement, ce qui est fondamental pour les enfants et les adolescents aujourd'hui, on le souligne d'ailleurs déjà dans les débats sur l'école, c'est la capacité d'expression, le langage, la maîtrise de la langue française, qui quand même, il faut bien le reconnaître, pour beaucoup de nos élèves, n'est pas la langue maternelle. Tous ceux qui viennent et enrichissent la France de leur talent d'immigrants, je tiens à le dire et je le souligne dans le livre, ont affaire à l'école à une langue étrangère. Et donc, nous avons voulu mettre en avant que la langue ne s'apprend pas simplement pour elle-même. Elle s'apprend pour écrire de la poésie, pour discuter avec ses copains, pour parler avec le maître, mais aussi pour faire de la science. Et cette articulation du langage avec l'impératif absolu de donner à nos jeunes une meilleure maîtrise de la lecture et puis de l'écriture et du vocabulaire et de la grammaire et de la syntaxe, eh bien, elle se construit avec l'objet de la langue qui est de comprendre le monde, de l'exprimer, et donc en particulier avec la science. Ça a été une des caractéristiques de la main à la pâte. Et aujourd'hui, je le répète, mais où l'accent est tellement mis sur, à l'école primaire, la nécessité de dépasser ce manque de pratique de la langue, nous pensons que la pratique de la science y contribue. Et puis, le troisième aspect, qui est d'ailleurs lié à ce second aspect, c'est la préoccupation qui a été constamment la nôtre, sans être exclusive d'ailleurs, de cette fraction, le quart, le tiers des jeunes français scolarisés qui sont dans l'échec et dans l'abandon en fin de collège. Et c'est ce dramatique écart entre notre élite d'un côté et le reste de la population de l'autre que les chiffres, les enquêtes internationales, les analyses soulignent sans arrêt, mais sur lesquelles les remèdes demeurent complètement insuffisants, que j'ai voulu une fois encore attirer l'attention. Voilà, il y aurait bien d'autres choses.
Chose à dire, on pourrait revenir justement sur ce constat que vous faites, c'est-à-dire la jeunesse a changé. Quand on dit la jeunesse, c'est l'âge du collège, hein, parlons bien clairement, donc 11-16 ans, entre la 6e et la 3e. Vous observez 4 immenses changements, c'est votre expression, chez les élèves, adolescents ou pré-adolescents au collège. Alors, ces changements, ils vivent à l'échelle du monde, ils sont dans des familles moins traditionnelles, ils sont familiers d'Internet et ils ne font plus le lien entre études et emploi. Un commentaire sur ces immenses changements ?
Oui, j'ai tenté de les expliciter comme vous venez de le faire à partir de ce que je ressens. Michel Serre, dans son livre « Petite poussette », développe beaucoup ces 4 points et d'autres. Il m'a d'ailleurs inspiré également dans cette lecture de la jeunesse d'aujourd'hui. On critique beaucoup les jeunes, c'est superficiel, ils ne font que des SMS, ils ne pratiquent pas la langue, ils ne sont pas capables d'un effort, ils manquent d'attention. Mais enfin, tout cela, c'est parce qu'ils vivent dans le monde que nous leur avons construit. Donc nous en sommes responsables. À nous d'assumer ce changement qui, en partie, vient du développement de la société ou de la civilisation contemporaine voulue, en partie vient du jeu du marché, du développement de la mondialisation, peut-être plus subi que voulu, mais qu'importe. Finalement, c'est la réalité et l'école doit y faire face. L'école a peur de ces grands changements. Elle a peur de la, on pourrait employer ce terme, la perte d'identité nationale que représente la globalisation. Elle a peur des outils numériques que les enfants manipulent mieux que les adultes. Elle a peur de cette perte de repères de l'autorité que les familles traditionnelles représentaient et qu'elles ne représentent plus beaucoup. Elle a peur de ces mélanges de cultures, de l'irruption d'autres représentations du monde, du religieux dans d'autres cultures en son sein. Et devant cette peur, elle se recroqueville le plus souvent. Elle se recroqueville et la violence qui parfois émerge dans les cas extrêmes dans les collèges ne fait qu'aggraver cette peur et entraîner une tentation très forte de repli. Bon, la thèse que j'ai voulu défendre, à l'image de l'expérience qui a été la nôtre, c'est que ce repli sur soi est dramatique et que la solution n'est pas dans cette direction.
Oui, en effet, si vous le permettez, j'aimerais lire justement un petit passage de votre conclusion qui illustre très bien ce que vous dites. Notre système éducatif possède indéniablement de gros défauts, comme d'ailleurs la plupart de ceux des autres pays du monde. Moins peut-être puisqu'il suscite encore de par ce monde beaucoup d'admiration et d'imitation. Il est aisé de dénoncer ses défauts, gaspillage et conservatisme, et d'imposer des coupes budgétaires. Il serait plus courageux d'analyser nos faiblesses, de faire partager cette analyse au pays et au corps enseignant, puis de corriger ces faiblesses en recherchant sans cesse l'adhésion, en maintenant les dépenses, tout en orientant autrement et mieux l'emploi des ressources. Donc effectivement, c'est une de vos conclusions. Critiquer ne sert à rien. Bâtissons, finalement. C'est
bâtissons,
plutôt ça.
Mais bâtissons du neuf. Et c'est difficile. L'illustration la plus douloureuse, c'est le fait qu'aujourd'hui, les jeunes français ne veulent plus devenir professeurs. On dit, et ce n'est pas faux, je le reprends dans le livre, que c'est à cause des salaires, des conditions de travail. N'exagérons rien. Les salaires pourraient être augmentés. Ils ne sont tout de même pas, compte tenu du travail dissuasif. Les conditions de travail ont quand même, par rapport à d'autres métiers, un caractère qui n'est pas non plus si terrible. Le fond des choses, c'est que on ne veut plus devenir professeur parce que je crois, plus ou moins consciemment, beaucoup de jeunes, à l'âge des choix professionnels, ressentent qu'ils vont se mettre dans cette école si loin de ce qu'elle devrait être aujourd'hui. Et ceci est un problème difficile parce que, comme je l'écris ailleurs, il y a 850 000 professeurs en France et donc faire manœuvrer une armée, entre guillemets, de 850 000 personnes n'est pas facile. Il y a beaucoup d'opinions, elles s'expriment avec liberté, c'est très bien. Donc c'est un profond changement de la condition enseignante et je risque même le mot, mais je ne l'analyse pas dans le livre qui n'a pas de désir d'analyse politique et technique détaillée, du statut de l'enseignant dans notre pays vers lequel il faut s'orienter. Parce que si demain nous n'avons plus de professeurs de mathématiques, plus de professeurs d'anglais, plus de professeurs de lettres, que ferons-nous de la transmission et du rôle de l'école ?
Parce qu'en effet, vous définissez ce rôle de l'école, c'est dès le début, page 20 de votre livre, transmettre à la jeunesse l'héritage du passé, l'aider à lire le présent et enfin la préparer à l'avenir. Or, si la transmission sur le passé, on peut dire que bon an, mal an, elle s'assume toujours, elle est toujours assumée par les professeurs, aider à lire le présent est parfois difficile et alors préparer l'avenir, étant donné qu'entre les études et l'emploi, il n'y a plus maintenant de lien direct. On voit qu'il y a des missions de l'école qui ne semblent pas remplies.
J'ai voulu dire, avec mon titre sur lequel je reviens, espérer que, malgré les analyses pessimistes, malgré les difficultés budgétaires, je crois profondément dans la capacité de notre école de changer en profondeur. Et je le crois parce que nous l'avons vécu avec la main à la pâte. Nous sommes partis d'une situation, j'ai souvent rappelé cela sur votre antenne, où les sciences n'étaient plus pratiquées par l'école primaire que par 2 à 3 % des instituteurs dans les années 90. Or, nous sommes arrivés aujourd'hui, même si on est encore loin du but, à ce que les sciences soient rentrées au moins dans la moitié de nos écoles primaires. Et elles n'y sont pas rentrées n'importe comment. Elles n'y sont pas rentrées simplement parce que le ministre a dit « il faut le faire », parce qu'il le disait avant et on ne le faisait pas. Elles y sont rentrées parce que nous avons accompagné les professeurs. Nous avons rompu, avec ce que j'ai dit précédemment, cette solitude de l'enseignant. Elles y sont rentrées parce que nous avons, grâce à l'Académie des sciences et à nos partenaires à l'Académie française, aux sciences morales et politiques, nous avons fait passer ce message que la science, ce n'est pas une culture scientifique et technique coupée de la culture. Non, la science, c'est, pour reprendre la belle expression d'Yves Quéret, une des belles provinces de la culture. Il n'y a pas la culture scientifique et le reste. Il y a la culture. Donc ce chemin, nous avons vu qu'il était compris par des centaines, des milliers, puis des dizaines de milliers de professeurs. Au collège, nous sommes moins avancés. Mais je suis convaincu que ce changement est possible et que il n'est pas facile parce que le monde change très vite, parce que préparer l'avenir, comme vous venez de le rappeler, c'est rempli de points d'interrogation. Mais l'école ne peut pas se contenter de transmettre le passé.
Alors si vous voulez garder votre optimisme, votre confiance, votre espérance dans notre école, lisez le livre de Pierre Léna, Enseigner, c'est espérer. C'est paru aux éditions Le Pommier. C'est lisible par tout un chacun, que l'on soit du monde de l'éducation ou que l'on n'appartienne pas à ce monde. Parce que, comme vous l'avez dit, Monsieur Léna, je crois que chacun de nous est concerné par les problèmes de l'école, même si on n'a plus les enfants, on a les petits-enfants, etc. Donc, on est tous concernés. Merci de nous avoir fait partager votre analyse avec ce livre. J'espère que nous aurons l'occasion de prolonger les débats avec d'autres membres des académies dans cette optique de véritablement regarder comment on peut aider et contribuer à améliorer l'école.
Merci à vous et à Canal Académie. Et ce sera avec grand plaisir que je poursuivrai, si vous le souhaitez.
Merci, Monsieur Léna.